Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce soir. Nous commençons par le rapport préliminaire de l'audit du fichier électoral publié vendredi dernier par l'Organisation internationale de la francophonie qui indique que plus de 16% de personnes ont été enrôlées sans empreinte digitale et 0,34% de doublons enregistrés. Ensuite, nous parlerons du tête-à-tête du président rwandais à l'Élysée la semaine passée également. Le président Emmanuel Macron a déclaré à cet effet, à propos de la RDC, que la France soutiendrait l'initiative prise par le président de l'Union africaine, Paul Kagame, en lien étroit avec le président de l'Angola, João Lourenço. En réaction, le gouvernement congolais, qui s'étonne que l'on puisse parler du Congo sans les Congolais, réclame des explications à propos du président français. Voilà les deux thèmes que nous allons aborder ce soir. Et pour en parler, je reçois Pi-Gérard Elinga. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, Alain Runk. Bonsoir également à tous les auditeurs de Tribune de Presse Radio Capi.
Merci beaucoup, les journalistes politiques. Jean-Pierre Kayembe, bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, cher Alain. Bonsoir, Pi. Bonsoir aux auditeurs.
Voilà, vous êtes directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Delphin Ebois, bonsoir, cher confrère.
Bonsoir également à tous qui nous suivent à travers les pays, Alain Irung.
Merci, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Mbandaka et correspondant de Digital Congo dans cette ville. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Voyons comment la presse quinoise les a traités dans cette revue de presse que nous présente Donna Madimba.
L'épidémie d'Ebola est cette semaine encore la star des sujets dans les médias de RDC. Citant le ministre de la Santé, le journal Forum des As annonce que depuis 3 jours, il n'y a ni aucun cas de contamination, ni plus aucun décès lié à cette épidémie. Mais le journal Observateur prend quand même la précaution de signaler que l'ONG internationale Médecins sans frontières a renforcé depuis mercredi l'opération de vaccination contre le virus Ebola à Bikoro. En politique, et plus précisément en diplomatie, le potentiel écrit Angola-Rwanda-RDC, nouveau ballet diplomatique en vue à Bruxelles. En effet, poursuit le quotidien, après s'être succédé à Paris, les présidents rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço se croiseront à Bruxelles début juin. Les différentes rencontres bilatérales devraient donner lieu, avec la diplomatie belge continue le potentiel, à de nouvelles discussions sur la crise en RDC. Et au journal Le Phare de titré « Crise congolaise, Kagame et Lourenço attendus à Bruxelles ». En dépit de vives contestations du gouvernement congolais contre des ingérences étrangères dans les affaires internes du pays, détaille le journal de l'avenue Lukusa, les grands de la planète semblent déterminés à ne pas laisser le pouvoir en place à Kinshasa mener à sa guise le processus électoral. Et la tempête des tropiques de dire son mot, je cite, après leur récente rencontre avec Emmanuel Macron à Paris, les présidents angolais et rwandais annoncés dans la capitale belge pour débattre de la situation politique grave que traverse la RDC et proposer des pistes de solutions. À l'Elysée, on cause trop Congo. C'est le coup de gueule du soft international qui note que cela fait désormais l'ombre d'aucun doute. Le président français Emmanuel Macron a fait le choix de monter la pression sur les dirigeants congolais. Pour cela, constate le soft international, il a levé l'option de s'appuyer sur l'Union africaine via le président actuel en exercice, Paul Kagame. Pour le média en ligne 7sur7.cd, le panel des experts de la société civile a exprimé des inquiétudes suite aux propos tenus par Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain sur la RDC. À en croire ces experts de la société civile, la sortie médiatique de Herman Cohen est révélatrice du complot ourdi contre la RDC depuis bien longtemps, dont le passage à l'acte est imminent, conclut 7sur7.cd. Et au journal Le Phare de révéler qu'à travers une correspondance adressée à la CPI le vendredi 25 mai dernier, Herman Cohen estime que le leadership de Jean-Pierre Bemba est indispensable dans cette période de tension et de violence régionale. Fin de citation.
Merci Donna Madimba. Pi-Gérard Elinga, vous êtes journaliste politique. Quel est le sujet qui a retenu votre attention cette semaine et que vous souhaitez commenter en dehors de ceux qui sont retenus pour ce soir?
Bon, merci à Alain Rung pour l'invitation. Et merci également à tous les auditeurs de la radio Capi, en particulier l'émission Tribune des Presse, qui sont disséminés à travers la RDC, particulièrement mes frères et sœurs de la ville de Bassankoussou, qui nous ont beaucoup appelés pour le numéro précédent. Je suis partagé entre la médiocrité politique qui se passe dans mon pays. Là, je suis en train de voir cette ministre provinciale qui venait de démissionner suite à tout ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Ou soit la
Du Maniema.
Ou la participation politique des jeunes aux prochaines élections. Bon,
très brièvement, chacun.
Ouais, très brièvement, oui, chacun. Par rapport à la participation politique des jeunes aux prochaines élections, je suis en train de dire ceci. Le processus électoral en République démocratique du Congo, Alain, il est bien là, il est en train d'évoluer. Mais je me dis également, le changement qui est aujourd'hui un aveu de tout le monde, parce que vous sentez dans le chef de la population, on veut le changement, on veut l'alternance, ne doit pas qu'être une affaire de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Les changements devaient s'observer également au niveau des partis politiques qui existent déjà, même ceux qui sont au pouvoir, au niveau interne, donc je voulais dire. Donc c'est ici l'occasion que les partis politiques, les regroupements politiques puissent être un tout peu souple, surtout leurs autorités morales, de pouvoir laisser un peu la marge aux jeunes, même sur le plan interne, que les jeunes puissent quand même concourir aux prochaines élections, qu'ils puissent amener un peu un autre souffle pour que nous puissions voir aussi les changements, non seulement les changements vertical, mais les changements horizontal quant aux figures et pour voir ce que ces jeunes-là peuvent apporter.
Alors, sans oublier qu'il est aussi de la responsabilité des jeunes de pouvoir s'affirmer.
Justement, eux-mêmes. C'est là que j'ai dit à toutes les ligues des jeunes, des partis politiques, de s'affirmer, d'aller se faire violence pour être inscrit dans les listes des prochaines élections. Alors, deuxième sujet rapidement,
Me
dis très rapidement qu'il y a un problème dans mon pays, Alain. Pourquoi on doit aller faire les stages au sommet de l'État, aux fonctions publiques qui vous amènent à diriger tout un peuple? Le cas de cette ministre provinciale de Maniema qui a démissionné suite à l'incompétence et suite à la médiocrité politique. Mais je me demande les services de renseignement et tous les services y afférents, avant qu'on nomme les gens dans les différents postes de responsabilité, pourquoi on ne donne pas les CV qu'ils vont, on ne les fait pas passer au casting avant pour qu'on assiste à une honte comme ça, ce qui n'est pas normal.
Merci. Jean-Pierre Kayembe, vous êtes directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Quel est, vous, le sujet que vous souhaitez commenter librement?
Merci beaucoup, Alain. Je voudrais commencer par dire merci à Radio Kapi pour cette tribune qu'elle m'accorde et saluer en passant les auditeurs qui nous écoutent particulièrement à Kananga dans la province du Kasaï central. Au Compi Gérard, j'ai reçu beaucoup d'appels par rapport à la dernière émission. Deux faits ont retenu mon attention cette semaine. Je voudrais commencer par Ebola. Il faut dire qu'on a assez parlé des morts du Congo. Et la nouvelle sur zéro contamination depuis 3 jours ne peut que réjouir tout Congolais aujourd'hui quand on sait la gravité de cette maladie qui tue sans frein. Donc je salue tous les efforts qui ont été consentis pour éradiquer cette épidémie et j'encourage également le gouvernement à pouvoir percer dans ce sens pour que plus jamais qu'on ne parle d'Ebola dans ce pays.
Deuxième
sujet. Fait, je voudrais ici parler du meeting des UDPS qui s'est tenu en fin de week-end dernier.
De quel UDPS?
Un meeting qui était très réussi. Et ce discours très très important de Bruno Tshibala qui a rappelé les origines de l'UDPS, la marche du pays, soutenu la machine à voter, le processus électoral, et réitéré sa volonté de pouvoir offrir au peuple congolais les meilleures élections de sa récente histoire.
Merci Jean-Pierre Kayembe, Delphin Ebois, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Mbandaka et correspondant de Digital Congo dans cette ville. Quelle est l'actualité à Mbandaka? On sait que c'est encore et toujours Ebola pour l'instant.
Oui, Alain Rung, c'est encore et toujours Ebola. Cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au point de provoquer des déchirements entre différents groupes d'intérêt. La maladie, Alain Rung, est perçue ici, à tort ou à raison, comme une vache à lait par la population, surtout avec l'annonce de financement qui vise des bailleurs. Et cette appréhension est renforcée par la récente déclaration de la société civile dans la ville qui tapait du poing sur la table pour dénoncer l'exclusion de l'organisation locale au profit des ONG des droits étrangers. Et grave encore, l'Union nationale de la PSD Congo, l'INPC, venait d'imposer un embargo total et absolu à tout message et information sur Ebola en province, à côté de ces malentendus, il faut reconnaître que les opérateurs économiques se frottent les mains. À ce jour, tous les hôtels de la ville sont sursaturés. Il y a des types qui sont pris en location. C'est vraiment de la manne pour les opérateurs économiques de la place. Donc, à côté de ça, il faut dire également que les églises de la place ont pris le taureau par les cornes, hein, en interdisant le sacrement qui implique l'imposition des mains à travers la ville. Donc, vous verrez des lave-mains partout dans des bureaux, dans des bistrots, de partout dans la ville. Tout le monde est mobilisé pour barrer la route à cette épidémie de la maladie à virus Ebola dans la ville de Mbandaka, en particulier de la province en général.
Merci, chers confrères. Cela nous permet d'aborder notre premier thème de ce soir. Des faiblesses sont contenues dans le fichier électoral de la CENI, selon le chef de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Siaka Sangaré parle de plus de 16% de personnes enrôlées sans empreinte digitale et 0,34% de doublons potentiels. Annonce faite vendredi dernier à Kinshasa lors de la publication des résultats de l'audit. Il recommande à la CENI de poursuivre le nettoyage du fichier. Ses propos ont été recueillis par Paul Matendo.
Nous avons demandé, à titre de recommandation, que la CENI poursuive les investigations portant sur l'absence de motifs pour les électeurs ayant été enregistrés sans empreinte et également de paramétrer les logiciels de saisie des données biométriques pour garantir l'application d'un motif pour l'inscription sans empreinte. Si dans le module d'enregistrement, il y a l'obligation de préciser, de donner le motif, je crois que cela permettra de mener des investigations beaucoup plus approfondies. Les experts, les informaticiens qui sont venus ont approfondi les recherches et ont pu identifier 0,34% de doublons potentiels, je dis bien potentiels. Demandons à la CENI de poursuivre ces opérations qui sont en cours actuellement.
Voilà, notez que les membres de l'opposition qui sont dans le comité d'audit n'ont pas assisté à cette cérémonie. Puis Gérard Elenga, journaliste politique, comment vous avez reçu ce rapport préliminaire de l'OIF concernant l'audit du fichier électoral? L'OIF juge le fichier satisfaisant malgré quelques faiblesses.
Question, j'aimerais ici profiter de cette occasion à travers cette question que vous me posez relative à l'audit du fichier électoral. Nos téléspectateurs, parce que je suis là au niveau de la télévision, qui m'avaient mal compris, mais que cette fois-ci transformé en auditeur, qu'ils puissent un peu bien comprendre ce que je vais dire ici en termes d'analyse. Et donc, nous sommes devant une situation telle que notre processus électoral présente déjà des séquences qui n'arrangent pas trop ceux qui doivent concourir justement à ces processus électoraux. Et donc, tout est là, une marmaille de problèmes qui partent de la machine à voter, contestation, les doublons, tout ça, ça fait en sorte que les uns et les autres n'ont pas confiance et mutuelle. Et moi, je me pose la question à ce stade-là, à ce niveau-là, nous allons finalement aboutir à quoi? Nous n'avons cessé jamais de le dire, que l'opération de l'audit du fichier électoral ne pouvait pas précéder, enfin, ne pouvait pas venir après que la loi sur la répartition des sièges soit déjà votée. Ceci va d'une logique aussi simple. Parce que maintenant, là, selon les conséquences en présence, donc logiquement, si on s'en tient à ces rapports, on risque de retoucher un tout petit peu le nombre des sièges. Parce qu'avec 16% au moins des électeurs, il faut dire que quelque part, qu'on se mette d'accord que le fichier est relativement un peu corrompu.
Et l'opposition, d'ailleurs, pire encore, parle de plus de 25%.
Voilà, l'opposition parle plus de 25%. Vous voyez déjà au niveau de chiffres même, par rapport au rapport, l'opposition qui est l'actrice même de ces processus électoraux n'est pas d'accord avec les rapports en termes de chiffres. Mais je voulais quand même revenir autour de l'homme. Le général Sangaré, c'est un Malien sur le plan continental qui est bien connu en matière électorale. Alors je pense que quand il parle de la recommandation, que la CENI puisse continuer l'investigation pour qu'on arrive à avoir des vraies raisons qui ont fait en sorte que nous puissions avoir au moins 16%. Écoutez par là, c'est à peu près 6 400 électeurs qui se sont fait enrôler sans empreinte digitale. Ça pose un problème, Alain. Mais avec la mentalité politique de la classe politique congolaise, au regard de ce processus électoral, moi je dis qu'il risque encore de trouver des prétextes. La majorité, comme l'opposition, avec cette véreuse société civile, je ne sais pas si elle existe seulement, il risque encore de poser problème. Parce que si vous voyez les discours de l'opposition, l'opposition. J'ai suivi quelqu'un comme Fayoulou à la fin des assises de la dynamique de l'opposition. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, ils sont dans la logique de dire qu'il n'y aura pas élection au mois de décembre de cette année.
Et donc, c'est des postures dangereuses.
Oui, des postures dangereuses, Alain. Même Félix lui-même à Bruxelles, aux États-Unis, pardon, il était sceptique. Mais je me dis, mais avec cette histoire de transition sans Kabila, et même ils disent qu'il n'y aura pas élection, voyez déjà ce qui est semé dans le chef des Congolais et ça laisse à embrouiller. Donc, en termes de solutions pour chiter, si vous le permettez, moi, je suis en train de dire ceci, qu'on ne donne pas les prétextes à cette politique qui, du reste, ne représente rien du tout. Ils sont là en train d'embrouiller la population pour rien. Que ce soit ces aventuriers de la majorité ou de l'opposition, ils ne sont pas prêts pour les élections. Merci. Donc, je me dis, au-delà de ça, le ciel ne va pas tomber, qu'on élague ces 16%.
Et qu'on aille aux élections.
Oui, qu'on aille aux élections, voilà. Avec le nombre qui va rester, parce que la diaspora n'ira pas aux élections, ça ne va rien changer après tout.
Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Puis Gérard relève le fait que le processus électoral présente des séquences inquiétantes qui altèrent la confiance au niveau de la classe politique. Et il se pose la question... Que veut l'opposition qui dit déjà qu'elle n'ira pas aux élections avec un tel fichier?
Oui, mais l'opposition, pas l'opposition de manière générale, une partie radicalisée de notre opposition politique n'a jamais été aussi prête pour les élections. Et ça, c'est depuis toujours. Vous savez que c'est dans ce pays que certains ont boudé le processus électoral en 2006 et ont fini par se rattraper en 2011. Pendant que vous regardez sur le terrain, vous avez la majorité présidentielle qui bat le rappel des troupes, la majorité présidentielle qui se prépare, l'opposition est en Europe. L'opposition est dans les officines politiques, dans les ambassades et à l'étranger en train de tenir des conférences. Vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, on sait voir aujourd'hui qui est pour les élections, qui est contre. Mais revenons au fichier électoral, cher ami Alain. Il y a un problème. Il n'y a que l'œuvre de Dieu qui est perceptible. Mais on veut atteindre la perfection. Toute œuvre humaine, on sait, n'a jamais été à 100% complètement bien réalisée. On aurait bien voulu, ce qui pouvait nous inquiéter, c'était si ces pourcentages étaient très élevés, si on parlait des 45%, des 50%, mais on est à peine à 16%. Et vous savez, ce ne sont que des personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Or, la qualité des lecteurs, l'empreinte, n'est qu'une des 10 règles qu'il faut pour détenir une carte d'électeur. C'est-à-dire que ces personnes répondent à 98% de règles que pour les deux autres. Mais on connaît tous comment ça se passe. Très souvent, quand vous suivez les experts de l'EIF, ces personnes ont été localisées dans des milieux ruraux. L'empreinte digitale, on peut la perdre. C'est possible, quand on fait les travaux champêtres tout le temps, on peut arriver à perdre l'empreinte digitale. Mais ça ne signifie pas que ces gens, cette catégorie des Congolais, doit être élaguée, que ces gens n'ont pas droit de voter. Non, ça c'est faux. Maintenant, il faudrait que des enquêtes se poursuivent, que la commission continue à travailler, qu'on arrive à identifier ces gens. Mais en tout cas, manquer d'empreinte digitale ne signifie pas qu'on est automatiquement exclu. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. Il y a notamment la photographie. Ces gens sont connus. Ils existent. On a leurs photos. Au nom de quoi devrions-nous dire aujourd'hui qu'ils doivent être exclus du processus électoral
Jean-Pierre.
Et qu'ils ne peuvent pas voter? Ça, c'est un faux débat.
Jean-Pierre.
Et qu'est-ce que vous savez que c'est la CENI qui a révélé ça aux experts de l'OIF après les opérations de toilettage? C'est la CENI qui a révélé. C'est pas l'OIF qui a découvert, contrairement à ce que certaines bouches racontent. C'est la CENI qui a démontré, qui a dit aux experts de l'OIF qu'il y a des personnes enrôlées qui n'avaient
Jean-Pierre.
Pas d'empreinte digitale.
Oui, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez du contexte ayant entouré la publication de ce rapport préliminaire avec l'absence de l'opposition le jour même et aussi l'opposition qui pense que ce fichier est non viable parce que contenant plus de 25% d'irrégularités?
25% d'irrégularités selon l'opposition, mais l'OIF n'a pas parlé de 25%. Je ne sais pas sur base de quoi l'opposition se fonde pour donner ce rapport ou ces statistiques. Ça, c'est de un. De deux, je note qu'il y a eu une très très bonne ambiance lors des travaux et que l'opposition n'a jamais exprimé la moindre inquiétude. Il y a eu la transparence. L'opposition a même demandé et obtenu à elle toute seule la visite au niveau de la salle
où se trouve garder le fichier électoral. Elle est partie avec ses experts, elle a travaillé. Elle est revenue avec des inquiétudes qui ont été balayées. Vous comprenez?
Merci.
Donc aujourd'hui, l'opposition travaille sur un coup de pub, un coup médiatique. C'est juste un coup de com' qui n'a rien de la réalité qui s'est passée pendant les jours de travaux.
Merci. Delphin Ebois, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC Mbandaka, et correspondant de Digital Congo dans cette ville. Après ce rapport préliminaire présenté par l'OIF, Delphin, faudrait-il s'inquiéter ou garder espoir et mettre le cap sur les élections?
Non, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure, Alain Irung. Il faut garder le cap vers les élections. L'OIF n'en est pas à sa première expérience. Vous savez, en 2011, et elle avait fait autant avec les observateurs internationaux, bien sûr. Il y avait des irrégularités qui étaient observées, signalées, mais qu'à cela ne tienne. On est quand même allé aux élections. Même les fichiers électoraux, à l'époque, n'étaient pas consolidés. Avec Tshisekedi, Kabila, à l'époque, n'étaient pas consolidés. Mais néanmoins, on était quand même arrivé à répartir, à procéder à la répartition des sièges. Donc l'histoire ne fait que se répéter. Autant laisser le peuple congolais aller aux élections. Il s'est choisi librement le nouveau dirigeant qui compte placer à la tête du pays. On n'a pas besoin de conflits, on n'a pas besoin de malentendus. Il faut que tout le monde prête son regard vers la même direction afin que nous ayons finalement les élections au plus tard. En décembre 2018, je pense. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juin. Il n'y a pas de minutes à perdre par rapport aux observations données par l'OIF. Et il n'y a pas à faire marche arrière par rapport au processus. Nous devons aller de l'avant et puis laisser à la population les moyens, la possibilité de voter. C'est ça, Alain Irung.
Alors, Delphin, comment redonner confiance à la classe politique, cette confiance mutuelle perdue par des séquences inquiétantes, car élevé Pie Gérard, machine à voter, les politiciens ne sont pas tous d'accord. Maintenant, c'est le fichier. Comment redonner et refaire cette confiance?
Bon, vous savez, les membres de la CENI, ils sont au nombre de 7, je crois. Ils ont été choisis sur base de certains critères, notamment la probité morale, l'honnêteté intellectuelle. Et si j'ai bonne mémoire, parmi les 7 membres de la CENI, il y a 3 de l'opposition et 4 de la majorité. Et je crois que toutes les recommandations, toutes les mesures se prennent en plénière. En plénière, et je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Je n'ai pas vu un membre de la CENI qui est lésé et qui a démissionné de ses fonctions. Autant dire qu'ils sont tous d'accord. Il revient aux opposants et à la majorité de faire confiance à leurs délégués qui sont à la CENI. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure quant à ces Alain Irung.
Voilà, nous avons un deuxième thème qui nous attend. Je vais demander des réponses très brèves avant que l'on aborde ce deuxième thème. Puis Gérard, comment vous entrevoyez la suite du processus politique après ce rapport préliminaire publié par l'OIF?
Non, moi je suis optimiste, hein, mais je voulais quand même dire quelque chose rapidement,
comme
vous l'avez dit, à Jean-Pierre Kayembe qui a rappelé qu'il y a certains qui ont boudé les élections en 2006. Alors, je fais mention ici pour dire que Tshibala, son oncle, faisait partie de ces gens-là, bien qu'il soit à la mangeoire aujourd'hui. Alors, si le temps s'étire, c'est avantageux pour lui, Kayembe, tu dois le savoir. Et aussi, au-delà de ça, comprendre que les politiciens que nous avons ici sont des hypocrites. Plus le temps avance, plus les opposants honoraires d'hier tirent un peu les choses à longueur, ils sont bien. Donc, qu'on ne donne pas le prétexte à Alain Irung, mon cher ami, qu'on aille aux élections, même si ces 16% qui n'ont pas d'empreinte peuvent se reposer pour attendre les prochains processus électoraux. Moi, je me dis, s'il faut que pour cela que les élections aillent lieu, je suis d'accord qu'on aille aux élections.
Je note donc que vous êtes optimiste. Jean-Pierre Kayembe, juste un mot, comment vous entrevoyez aussi la suite du processus politique?
Écoutez, Alain, je voudrais vite corriger l'ineptie débitée tout à l'heure par Pi. Hein. Tshibala n'est pas mon oncle, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure. Et Tshibala n'a jamais voulu que les élections soient reportées. Il l'a dit le week-end, lors de son meeting tenu à la Tikine. Il est pour les élections et qu'elles se tiennent le 23
décembre. Alors, quelle est votre conclusion par rapport à ce thème?
Je parlais de 2006. Donc, moi, je suis en train de voir tous les autres opposants aux abois revenir. Ils finiront par revenir à la raison. Ils seront pris des coups. Le processus sera déjà parti. Le train a déjà quitté la gare. Ils seront déçus parce qu'ils n'auront pas suffisamment travaillé leur base électorale, ce qui pourra compliquer. Et là, ils sont en train de préparer des contestations et c'est connu.
Merci. Delphin Ebois, votre conclusion par rapport à ce premier thème?
La conclusion, c'est que nous devons tous aller aux élections. Les observations données par l'OIF ne sont pas à jeter. Ce sont des observations peut-être qui nous serviront dans les jours à venir. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de séquences, il y a même de pour les années à venir, nous aurons toujours des élections et la CENI tiendra compte des observations faites par la OIF afin de consolider, afin de parfaire des futurs fichiers électoraux qui nous connaîtront dans notre pays.
Merci. Passons à notre deuxième thème de ce soir. La RDC réagit aux propos du président français Emmanuel Macron, tenu le 23 mai dernier à l'issue de la visite dans son pays du président rwandais. La France soutenait l'initiative prise par le président de l'Union africaine en exercice, Paul Kagame, en lien étroit avec le président d'Angola, João Lourenço, avait affirmé le numéro 1 français. Qualifiant ses propos d'ambigus, Kinshasa réclame des explications. Et s'exprimant cette semaine à Kinshasa au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la RDC est jalouse de sa souveraineté et ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt en Afrique ou hors du continent, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son avenir. Innocent Olinga pour les détails.
En attendant des clarifications et des explications sur les propos d'Emmanuel Macron, les gouvernements congolais rappellent, déclare Lambert Mende, que l'égalité souveraine des États proclamée par la Charte des Nations Unies est un principe intangible, un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les États. En vertu de ces principes, ajoute Lambert Mende, aucun État n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou via des arrangements ou des alliances particulières une responsabilité sur les destin de notre État. Selon les porte-parole du gouvernement, je les cite, les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêts extérieurs dans le but de promouvoir des besoins stratégiques des groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires dont certains ont par ailleurs déchiré de manière ostentatoire et sans sourciller les brevets de la démocratie dans leur propre pays ne sauraient en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre les combats engagés par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs appétits voraces. Fin des citations.
Voilà, Jean-Pierre Kayembe, vous êtes directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Bon, le gouvernement congolais demande des explications au gouvernement français. Qu'est-ce qui inquiète Kinshasa dans cette affaire?
Écoutez, Alain, ce n'est que normal que Kinshasa se sent inquiet parce que comment voulez-vous que l'on parle de vous sans vous? Ça n'a pas de sens. L'on parle d'une initiative qui aurait été prise par un président en exercice de l'Union africaine futile, et puis un autre président d'un pays voisin, concernant un pays qui n'est au courant de rien. Ce n'est que normal que ça inquiète. Mais quand vous prenez comment les relations aujourd'hui franco-rwandaises se présentent, les deux pays qui se regardaient en chaîne défaillance il y a quelques temps, tout d'un coup aujourd'hui, ils commencent à flirter ensemble. Vous avez même appris l'absurde idée de Macron de pouvoir nommer ou faire élire la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la francophonie. Donc aujourd'hui, je me permets de dire que la RDC est au cœur d'un vaste complot à l'international. Mais par-dessus tout, il y a des questions qu'il faille se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame est un interlocuteur qu'il faut pour parler démocratie en RDC? Est-ce qu'aujourd'hui, João Lourenço est une personnalité crédible ou qu'il faut pour parler démocratie ou pour parler respect, par exemple, des principes démocratiques au Congo? Est-ce que Denis Sassou, donc toutes ces personnalités que je cite aujourd'hui, ne peuvent pas intervenir, surtout pas ouvrir leur bouche pour parler? Et aujourd'hui, vous avez au niveau de la communauté internationale qui a fermé les yeux dans ce qui s'est arrivé au Rwanda. Paul Kagame est presque un monarque, un président à vie, il sera en poste jusqu'en 2050 ou 34, que sais-je. Denis Sassou, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Angola? C'est pire que ce qui s'est passé en RDC. Aujourd'hui,
merci,
je sens la guerre du cobalt.
Voilà,
ça, c'est mon analyse à moi. Je sens la guerre du cobalt.
Merci, Jean-Pierre.
Je sens une conjuration contre le pouvoir. Pas
pas seulement contre le pouvoir, mais c'est contre tout un pays. On cherche à avoir le contrôle de nos minéraux et on veut passer par le Rwanda et ses colons.
Voilà, la réalisation me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et donc il va falloir des réponses assez courtes. Puis Gérard Elenga, journaliste politique, bon, comment vous voyez cette agitation de Kinshasa au moment où plusieurs analystes ont toujours considéré le Rwanda comme étant un partenaire privilégié de Kinshasa?
Je sais que la radio Capi, elle est essentiellement une radio informative, parce que réfléchir, ça demande quand même un peu de temps, sinon on va passer des analyses qui sont superficielles.
Voilà, mais c'est mieux de réfléchir aussi dans le temps imparti.
Oui, oui. Alors, je suis en train de dire ceci à Alain Hironk. Nous devons faire la part des choses. Journaliste, oui, je le suis, mais je suis avant tout congolais. En tout cas, moi, au moins, je n'ai pas une double nationalité, je n'ai pas une triple nationalité comme les autres. Je n'ai que le Congo comme mon pays. Et quand il s'agit du Congo, s'il vous plaît, cette façon de faire, cette façon de présenter les choses avec certains confrères nous a fait un tout petit peu caricaturer. On hyperpolitise tout et puis on hyperspiritualise tout ce qui n'est pas bon. Il s'agit ici du Congo. On ne parle même pas de Kabila, même pas du régime de Kabila. On parle de la RDC, mon Dieu, faisons la part des choses. Nous pouvons avoir nos querelles intestines ici à notre niveau, nos penchants politiques. Mais quand il s'est agi du terrorisme en France, là Hollande n'avait pas vu Sarkozy hier comme son adversaire politique, il a appelé à l'Elysée, ils ont essayé de parler France. Et nous devons arriver à voir ces choses ici comme ça chez nous, ne pas tout le temps voir l'opposition et la majorité. Comment la France, comment le Rwanda, comment l'Angola et tout récemment le Congo Brazzaville peuvent aller parler de la RDC sans que nous-mêmes nous soyons RDC intéressés? Et vous voulez prendre Lambert Mende à contre-pied pour dire que Lambert Mende comme porte-parole de toute une institution, il ne pouvait que, mon Dieu, avoir cette réaction.
Oui, mais le président angolais puis Gérard n'a dit que tout ce que tout le monde dit, demander au président Kabila de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre et puis qu'il ne se présente pas à un troisième mandat.
Non, n'exagérons pas quand même, parce que sinon nous risquons de devenir des devins ou des prophètes. Moi, je me pose la question, le processus électoral à travers les calendriers, il est là. Mois de juin, le 24, nous sommes au mois de juin, dépôt de candidature pour les élections députation provinciale et nationale, et un peu plus loin, dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Attendons voir ces choses-là, si ça va être le cas où Kabila ira déposer la candidature pour un troisième mandat, nonobstant tous ces politiques de la majorité qui disent qu'ils sont en train de dire, mais Kabila lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Mais au-delà de ça, la question nationale, Alain, c'est là que je voulais en comprendre, c'est pas un problème d'opposition de la majorité, même si Katumbi était président, Félix est président, et qu'on parle du Congo comme ça, je pense que la réaction va être la même. Kagame n'est pas quelqu'un qui est mieux indiqué pour cette question.
Kagame, c'est un monarque de l'Union africaine.
L'Union africaine, un dictateur sans merci, celui-là. Vous prenez Laurence, ils vivent dans une démocratie dictatoriale. Sassou Nguesso n'est même pas un modèle. Ils sont mal placés pour parler de la question de la démocratie par rapport à la RDC. C'est là où nous autres, comme Congolais, nous ne voulons pas. Nous pouvons avoir nos problèmes internes ici. Entretons-nous ici, arrangeons-les ici. Mais pas que ça soit question pour que cette question puisse aller traiter à l'extérieur. Ça, on ne va pas l'accepter.
Delphin Ebois, journaliste à la radio télévision nationale congolaise, RTNC Mbandaka et correspondant de Digital Congo dans cette ville. Par-delà les émotions, Delphin Ebois, ne serait-ce pas la RDC elle-même qui donne l'opportunité aux autres nations de parler d'elle sans elle?
Bon, Alain Hironk, je vous remercie d'abord pour la question, mais je voudrais ici dire que, à mon sens, il n'est pas question ici d'empiéter sur notre souveraineté. Vous savez, en vertu du caractère indivisible de la paix, comme vous le savez, peut-être que l'instabilité de la RDC peut affecter, peut avoir des effets collatéraux sur des pays limitrophes. Vous savez, nous sommes un pays à dimension continentale avec 9 pays voisins limitrophes. Il faudrait qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme afin de stopper une hémorragie ou alors cette pluie qui est en train de vouloir s'abattre sur la RDC. Mais ce qui n'est pas du tout juste, c'est que le fait qu'on ait invité des présidents qui ne soient pas assez qualifiés
pour parler de la RDC à l'absence de la RDC. Tous ces présidents qui ont été invités par Macron sont des présidents qui ont tripatouillé leur constitution pour demeurer à vie, ad vitam, au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de leçons à donner à notre pays. Donc, soyons confiants envers nos autorités. Et surtout Kabila. Kabila n'a jamais dit que il violerait la constitution. Il a dit clairement devant le congrès réuni qu'il respecterait la constitution. On lui donne quand même ses crédits, hein, et puis allons de l'avant. Laissons que les Occidentaux cessent de nous imposer leur hégémonie. Nous sommes assez libres pour décider de notre destin. Allez, donc.
Alors, Delphin Ebois, vous parlez des présidents pas très qualifiés pour parler de la question de la RDC. Je rappelle que le président Paul Kagame du Rwanda est président de l'Union africaine et que le président angolais João Lourenço est président de la SADC.
Oui, ils sont des présidents, ils sont bien sûr présidents de la SADC et de l'Union africaine, comme vous l'avez dit, mais ils devaient prêcher par l'exemple dans leur pays. Hein, ils devaient prêcher par l'exemple, comme ça on les croirait. Mais comme eux-mêmes n'ont pas prêché par l'exemple, donc ils n'ont pas de leçons à nous donner.
Alors, Jean-Pierre Kayembe, le président Kabila ne doit pas se présenter à un troisième mandat et puis respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, dit le président angolais. Où est le mal dans tout ça?
Bon, il n'y a pas de mal, mais il s'agit quand même d'une miction dans les affaires intérieures d'un pays. Ça, c'est dans un. Des deux, Lourenço, tout comme Kagame ou encore Macron, ils enfoncent une porte déjà ouverte. Kabila a dit, il a redit dans ce pays, et devant les plus grandes tribunes du monde, qu'il va respecter la Constitution. Ça, c'est de un. Pour ce qui est de l'accord de la Saint-Sylvestre, puis Gérard l'a rappelé tout à l'heure, le calendrier de la publié par la CENI est en train de suivre son cours normal. Il y a eu toutes les opérations prévues sont en train de se faire. La CENI nous rabâche les oreilles tout le temps qu'il y aura élection le 23 décembre. Je ne sais pas si Kagame ou encore Lourenço ont appris que dans ce pays, qu'il y avait une initiative où il était allant dans le sens de réviser la Constitution. Donc là, ils enfoncent une porte ouverte. Je vais dire qu'ils seront encore à Bruxelles la semaine prochaine ou cette semaine pour parler du Congo sans le Congo. Ça, c'est quand même grave. Il faudrait que des Congolais, comme nous, que des nationalistes s'élèvent et disent non à cette espèce de paternalisme qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il faudrait que le Congo soit fier et qu'il fasse comme tout pays indépendant. Donc, on n'a pas d'ordre à recevoir ni de Kagame, ni de Lourenço, encore moins de Macron. 58 ans après, le Congo est assez mûr, assez mature pour décider de la direction à prendre à lui tout seul.
Puis Gérard Elenga, est-ce que le président Kagame aurait sacrifié la RDC au profit du poste que le Rwanda veut occuper au niveau de la francophonie?
Je tiens ceci du professeur Kambai Boacha, avec qui on échangeait dans mon émission, et il m'a dit des choses autour du placement des dirigeants africains au niveau de nos pays. Alors, il m'a dit Mobutu était un fruit des Occidentaux. Il m'a parlé de Kabila père qui était porté aussi par les Occidentaux via les Rwanda. Le même Angola ici avec Lourenço qui aujourd'hui nous donne des leçons. Je pense que ce sont les militaires angolais qui sont venus entourer Kabila aujourd'hui quand il avait accédé à la magistrature suprême après la mort de son père. Mais qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la leçon à tirer 58 ans après aujourd'hui? Moi, je pense que sur le plan interne, nous avons une opposition. Nous avons le CLC, par exemple, le comité de coordination, nous avons une société civile, nous avons les étudiants. Toutes ces catégories de structures sociales font pression pour que les processus puissent aller de l'avant. Là où moi, comme Congolais, comme nationaliste, comme Lumumbiste, si vous voulez, je ne perçois pas ça correct pour que les présidents d'autres pays, pendant que nous, on ne leur donne pas de leçons, qu'ils se permettent de nous donner des leçons. Mais quelque chose d'important à l'Aïrung, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des prétextes qu'il faut éviter. La communication politique qui a la majorité présidentielle aujourd'hui donne justement la matière à ces présidents qui ne sont pas des modèles de parler aussi légèrement comme ça de notre pays, parce que ce sont nos problèmes internes, les élections. Vous voyez, il y a des politiques à la majorité qui disent que non, Kabila Zala, Kazako Zala. Les chadars qui peuvent paraître comme des gens respectés, regardez à travers la tournée dans le pays, ce qu'ils disent. Justement, quand ils le font, les diplomates, les Occidentaux, ils sont là, ils sont en train de capter ces messages. Et Kabila lui-même s'éteint, il ne dit rien. Alors on se dit qu'effectivement, c'est peut-être lui-même qui les envoie, alors que ce n'est pas le cas. D'où ça donne la matière à un type comme Kagame, à quelqu'un comme Sassou, comme Lourenço, pour qu'ils tiennent ce genre de discours qu'ils sont en train de tenir entre nous. Mais au-delà de tout, les Congolais doivent comprendre que les Occidentaux ne nous aiment pas. Ils aiment nos matières premières, ils aiment nos richesses, mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils ont porté Mobutu hier, Kabila. Aujourd'hui, vous vous rappelez l'époque de la lumichelisation de la RDC. Aujourd'hui, Kabila est devenu une personne non grata. Même si Katumbi ou Félix devenaient président demain et qu'ils sont plus tournés vers l'Occident, ils vont bien les porter. Mais à la fin, ils vont recevoir les mêmes traitements que Kabila est en train de recevoir aujourd'hui, de subir aujourd'hui.
Les Congolais
doivent être intelligents.
Delphin Ebois, quelle leçon faudrait-il tirer de cet épisode?
La leçon, c'est que les Congolais doivent s'unir davantage pour barrer la route à cette hégémonie, à cette forme de néocolonialisme qui tente de s'installer dans notre pays. Et nous sommes assez majeurs, nous sommes un peuple suffisamment avertis pour que nous puissions nous-mêmes porter les défis de notre pays. Donc, avec nos matières premières, avec tout ce que nous avons comme expertise, nous sommes à même de relever les défis et de voir notre pays aller de l'avant.
Jean-Pierre Kayembe, on va déjà commencer à conclure. Ne faudrait-il pas que la RDC, qui brandit le flambeau de la souveraineté à qui veut l'entendre, puisse se doter des moyens en interne aussi pour consolider cette souveraineté?
Des moyens en interne, j'entends par là le processus politique, processus démocratique, processus électoral qui est en cours, qui se déroule sans embâge. Dans ce pays, les gens sont plus libres qu'ils ne le sont ni au Congo-Brazzaville, ni en Angola, encore moins au Rwanda. Donc ce pays, le Congo démocratique, est un exemple en matière de démocratie dans la sous-région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous sommes un modèle.
En conclusion,
il y a encore des points sur lesquels nous accusons un léger retard, et je crois qu'avec tous les efforts consentis actuellement, on n'a plus à nous plaindre. Ceux-là, ils vont tout faire.
Merci.
Ils trouveront ici une armée capable de riposter. Ils trouveront un peuple mûr et prêt à tout.
Merci. Puis Gérard Elenga, conclusion.
Oui, en conclusion, je suis en train de dire à Nanga Cécile, il s'est dit diacre, si je suppose qu'il prie, qu'il sert Dieu, il a une responsabilité historique par rapport à ces pays pour lesquels les Mobutu, les Kimpavita, les Lumumba, les Kabila, père, même fils, ils ont à verser leur sang. Ah, donc, il doit tout faire pour qu'il y ait élection. Et j'ai dit à mes frères et sœurs de Bassankoussou qu'ils se préparent, il y aura certainement élection le 23 décembre 2018.
Merci. Delphin Ebois, un mot en guise de conclusion.
Un mot, c'est que les peuples et la RDC soient calmes. Nous sommes vraiment optimistes quant aux élections. Et nous irons aux élections pour que nous puissions nous choisir de nouveaux dirigeants et remettre le pays sur les rails et aller de l'avant comme toujours.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. Tribune de la presse est terminée pour aujourd'hui. Réalisation Donna Madimba. La technique est assurée par Bob Landou. Supervision Péléki Pelamondo. Présentation et coordination Alain Yurung-Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.